Il veut nous partager son cœur, et dans son cœur, il y a aussi des hommes et des femmes qui vivent dans un temps donné et dans un espace donné. Donc j'appellerais ça un héritage, mais cet héritage en fait représente le royaume de Dieu, n'est-ce pas? Cet héritage que nous allons recevoir, c'est lui-même, c'est Dieu lui-même, mais pour refléter l'image de notre héritage éternel, il nous donne aussi sur la terre un héritage concret et visible. Et je vais dire que mon héritage, c'est la francophonie. Donc la France et toute l'Afrique francophone. Et j'ai très vite compris que mon héritage était trop grand. Et j'avais trop de richesses et que je ne pouvais pas gérer cette richesse tout seul. Et que le Seigneur m'a partagé sa stratégie. C'était de vraiment partager cette richesse avec d'autres qui vont entrer dans la même joie que moi, de voir son règne venir dans cette géographie donnée. Donc, comme vous voyez, toute la vague, ces jeunes Coréens viennent un an à part pour connaître la parole de Dieu et pour aussi vivre la vie communautaire. Et en tout cas, ce que je vais partager, ça va dans le même sens de ce que nous vivons, mais c'est juste la Bible qui le dit et que nous le vivons dans la vie quotidienne. Donc j'ai choisi un verset qui est dans Philippiens 2, 12. Donc on pourrait peut-être le lire ensemble. Si vous avez la Bible, Philippiens, lettre aux Philippiens, chapitre 2, verset 12. Il est écrit « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. » Donc ici, j'ai surtout retenu ce passage. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Vous savez que ça, c'est un passage qui a suscité beaucoup de débats, beaucoup de controverses. Donc, certains diront que, il ne suffit pas d'être sauvé par la grâce, mais il faut encore ajouter des œuvres pour parfaire le salut. Donc, beaucoup de théologiens l'ont dit, et que nous savons très bien que dans la théologie catholique, c'est toujours l'actualité. Mais est-ce que c'est vraiment cela? Donc, nous, est-ce que nous avons été sauvés? Ça, c'est une grande question. S'il y a une seule question, parce que normalement, je viens ici toujours pour témoigner de ce que le Seigneur fait au Sénégal ou ailleurs, en Afrique du Nord, et on donne le témoignage de ce que nous vivons dans le champ missionnaire. Mais aujourd'hui, on ne parle pas de la mission, parce que certains disent que, pensent que ça, c'est quelque chose pour quelques personnes particulières. Et moi, j'en suis pas là. Mais d'accord. Donc, on ne parle pas de la mission, mais on va tout simplement s'intéresser à nous-mêmes. Alors, quand il s'agit de moi-même, quelle est la question la plus importante de toute l'éternité? Ce ne serait pas la vie, n'est-ce pas? Est-ce que je suis sauvé? Est-ce que je vis? Est-ce que, après ma mort, j'irai dans les bras du Seigneur? Ça, c'est la plus grande question. Est-ce qu'il ne vous est jamais arrivé de poser cette question? Est-ce que je suis vraiment sauvée? Est-ce que j'irai vraiment au paradis? Est-ce que ça ne vous a jamais travaillé? Voilà. Donc, c'est peut-être à cette question que nous allons réfléchir aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, nous allons dire que ce qui est le plus important, c'est la vie. Donc, baba. Donc, tout à l'heure, c'était Philippiens 2, 12. J'ai mis plusieurs versions pour voir ce qui est vraiment important. Parce que travailler à votre salut, c'est nous-mêmes qui travaillons à notre salut. Est-ce que le salut n'était pas de Dieu? C'était pas le cadeau de Dieu? Mais comment la Bible nous dit, la Bible qui nous donne la vie, comment la Bible arrive à dire aujourd'hui que c'est à moi de travailler? Donc, gardons ça en tête comme question. Et que nous avons dit, c'est une question importante parce qu'il s'agit de notre salut, n'est-ce pas? Donc si c'est mon salut, là, au-delà de toute chose, il faut que je me penche sur cette question. Parce que la vie est importante. Alors si la vie est importante, il faut que ce soit déjà possible. Mais regardez, dans le temps de prédication, qu'est-ce qu'on fait? On partage la parole de Dieu. Mais dans Jean 20, ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Oui. Tout ça, la prédication, ouvrir la Bible, tout ça, c'est pour que nous ayons la vie. Donc c'est la question la plus importante. Et vous sondez les Écritures dans Jean 5 parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Donc on n'ouvre pas la Bible pour avoir l'étude biblique. On ouvre la Bible pour avoir la vie éternelle. Au-delà de toute chose, c'est ce qui est le plus important. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi, de Jésus-Christ. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Donc voilà, quel insensé ne vient pas à Jésus pour refuser la vie. Donc ça, c'est une question grave. Et le verset que tout le monde connaît, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ça, c'est la question centrale de la Bible, c'est la question centrale de tous les chrétiens, et c'est la question centrale de toute notre raison d'être sur la terre et de notre travail en tant que chrétien et missionnaire. Maintenant, le Seigneur n'arrêtait pas de nous dire que je t'envoie tout ça, toute cette nourriture, toute cette trace de l'amour pour que tu aies la vie, pour que tu aies la vie. Et maintenant, on peut se poser cette question. Est-ce que c'est facile d'être sauvé ou pas? Est-ce que c'est facile ou pas, à votre avis? Qu'est-ce que vous en pensez? Aujourd'hui, en Corée, je ne sais pas, dans le milieu charismatique, la Corée est un pays très célèbre pour le réveil. Parce que la Corée, avec le pays de Galles et quoi, avec les États-Unis, ce sont trois pays qui ont connu le plus grand réveil de toute l'histoire de l'humanité. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais aujourd'hui, quand on me pose la question sur l'état de l'Église coréenne, je ne peux pas donner de bonnes nouvelles. Parce que l'Église connaît un déclin si rapide, si flagrant. Et dans notre prière, on pleure toujours sur l'Église coréenne. Et pourquoi? Parce qu'il y a la conception du salut qui est complètement erronée. Et c'est bon, le Seigneur a dit que quand je reviendrai, quel serviteur fidèle sera en train de partager la nourriture au temps convenable. Donc c'est une chose qui est difficile peut-être parce que l'Église de la Corée a tellement voulu peut-être la croissance numérique, la croissance quantitative, au lieu de suivre la parole de la vérité, on a peut-être fabriqué une nouvelle vérité selon les hommes. Donc, il y a une question. Quand on voit l'état de l'Église coréenne aujourd'hui, on ne dirait pas que ce sont des gens sauvés. On ne dirait pas que ce sont des chrétiens qui ont reçu la lumière et la vie de Jésus. Donc, il faut vraiment, on est amené à poser cette question et que pourquoi pas en France. Donc, question, facile ou difficile? Parce qu'on dit souvent qu'il suffit de croire, non? Mais le Seigneur dit dans Deutéronome, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant vous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Ça, c'est le cœur de Dieu. Peut-être vous ne connaissez pas tout l'Ancien Testament. Alors, je peux vous dire que tout l'Ancien Testament, si vous voulez connaître, lisez les premiers livres de l'Ancien Testament. Ça, c'est la loi de Moïse. Et tout le reste, c'est la preuve que de cette loi, la preuve que cette loi est la vérité, que ce que tout ce que Dieu a dit dans la loi de Moïse, ça arrive vraiment dans la vie. Donc si tu choisis la vie, tu vas te réjouir de la plénitude de la vie. Si tu choisis la désobéissance à la parole de la vie, tu vas connaître le goût de la mort et tu seras dans la mort. Donc on sait déjà que le Seigneur nous donne le choix et que c'est à nous de choisir la vie. Et aussi, il faut voir la réponse de Jésus dans cette question, est-ce que c'est facile ou pas? Parce que pendant des décennies, on a enseigné cette nouvelle en disant que c'est tellement facile d'être sauvé, il suffit de croire. Il suffit de croire. Mais qu'est-ce que Jésus dit? Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieuse est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrée le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Alors, à votre avis, tout le monde sera sauvé? Et qu'est-ce que Jésus dit? Il dit que c'est peu. C'est peu. Et il dit encore, quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il leur répondit, efforcez-vous d'entrer. Efforcez-vous d'entrer. Ce n'est pas avec les bras croisés, parce que j'ai cru en Jésus, que tu seras sauvé. Ce n'est pas du tout le discours de Jésus, mais dans toute l'église du monde entier en ce moment, ce discours est comme la vérité. Alors qu'il dit, c'est peu, c'est très difficile. Donc, efforcez-vous. Donc, donne toute ton énergie, tout ton esprit, toute ton âme pour entrer et choisir la vie. Car, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas, malheureusement. Ça, c'est la vérité de la Bible qui nous dit. Et quand on arrive à ce point-là, et ça devient grave, n'est-ce pas? Donc, pour les disciples de Jésus, c'était pareil. Donc, dans Luc 18, les disciples, ils ont bien fait. Ils posent la question à Jésus. Alors, qui peut être sauvé? Ça semble très difficile. Qui peut être sauvé? Alors, Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alléluia. Donc, aujourd'hui, on va vraiment voir ce que Dieu a fait dans notre vie et on va tout simplement se réjouir et lui rendre la louange. Donc, si on considère la question du salut, ce qui est très très compliqué, c'est que on est sauvé de quoi? C'est ça. Peut-être c'est ça qu'on ne sait pas. On est sauvé de quoi, à votre avis? Donc les gens disent que le véritable salut, pour connaître le véritable salut, il faut savoir de quoi nous sommes sauvés, de quoi on est sauvé. Est-ce que croire en Jésus, c'est comme si on croyait avant, on s'appuyait sur l'argent, sur l'honneur, sur l'époux, sur l'épouse. Et avant, je m'appuyais sur l'argent, maintenant je m'appuie sur Jésus. C'est pour cela que je suis sauvée. Est-ce que c'est vraiment ça? Et il paraît que ceux qui sont sauvés dans la Bible, de la première église, ils vivaient exactement la vie comme Jésus. Vous savez, sur 12, 6 ont été cloués à la croix. Ils ont vécu comme Jésus. Ils sont morts comme Jésus. Hein? Alors aujourd'hui, combien de chrétiens vivent la vie de Jésus? Hein? Est-ce que nous avons aussi la même évangile? Est-ce que nous avons aussi le même salut? Est-ce que nous avons été touchés par la même lumière? Mais pourquoi aujourd'hui, surtout dans l'église coréenne, si les gens ne veulent pas croire en Jésus, c'est à cause des gens qui prétendent croire en Jésus. Vous voyez? Donc, la présence même de ta vie est l'empêchement pour quelqu'un d'entrer dans le paradis, d'être sauvé. C'est grave. Est-ce qu'il s'agit toujours d'ajouter un chrétien de plus dans l'église dans ce cas-là? Ce ne serait pas important. Et en Afrique, où nous allons très souvent, est-ce qu'il s'agit d'implanter une église de plus? Et toutes ces églises au Zaïre, quoi, ancien Zaïre, quoi, Congo, Praza, Congo, Kinshasa, etc. Il y a combien de pourcents de la population qui se disent chrétiennes? C'est allé jusqu'à 90% au Rwanda. Vous savez ce qui s'est passé au Rwanda, n'est-ce pas? Et où, quoi, Congo, Kinshasa, Congo, Brazza, Cameroun, au Centrafrique, ils sont allés jusqu'à 70% de la population chrétienne. Est-ce que c'est, ce sont des gens qui entrent dans l'église qui manquent dans le monde en ce moment? Ça, c'est vraiment une question. Donc, parce que nous ne nous intéresserons pas à l'Afrique ou à la Corée, on va s'intéresser à nous-mêmes. On va savoir si je dois savoir, je suis sauvé, il faut d'abord connaître la réponse à cette question. De quoi on doit être sauvé et d'où on doit être sauvé pour aller où, n'est-ce pas? Donc, la question étant posée, tout le monde pouvait peut-être citer, parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps, mais on dit souvent que nous sommes sauvés de l'enfer, non? Nous sommes sauvés de la mort. Mais la Bible dit, Jésus sauvera son peuple de ses péchés. Jésus sauvera son peuple de ses péchés, d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es sauvé des péchés, tu n'as plus de péché. Attendez. Je suis en train de couler dans l'eau et je ne sais pas nager, d'accord? Et je coule de plus en plus profondément dans l'eau et après je peux dire que je suis sauvé de l'eau? Non. Tout en restant dans l'eau, je ne peux pas dire ça. Et je suis dans les Alpes en hiver à 3000 mètres, c'est ça? Et que toutes mains sont gelées et tous mes pieds pareils, et que je continue, quoi, comment ça s'appelle la maladie qui sont dans les mains et dans les... Oui, donc là, ça continue de gagner tout mon corps. Est-ce que je peux dire que je suis sauvée du froid? Non. Alors si nous sommes sauvés des péchés, est-ce que un chrétien peut continuer de vivre dans les péchés et il se dit que je suis sauvé? Mais si tu es sauvé, tu es sauvé pas d'autre chose, hein. Tu es sauvé des péchés. N'est-ce pas? C'est pour cela que c'est très important de connaître la vérité, que peu importe ce qu'est votre sentiment aujourd'hui vis-à-vis des péchés, vous êtes sauvé des péchés. Vous êtes sauvé des péchés. Et qui est-ce qui pêche plus? C'est d'abord celui qui connaît la vérité. Ça veut dire que ce n'est pas en faisant des efforts de ne plus pécher que je vais plus pécher. C'est quand mon âme saisira cette vérité que je suis sauvé des péchés, donc je ne peux plus pécher. Donc, vous connaissez la définition de hamartia, n'est-ce pas? Donc ça, c'est le péché en grec. Mais je vais dire en un mot que le péché, c'est quoi? Le péché, c'est dans sa racine quelque chose qui s'oppose à Dieu, d'accord? Quelque chose qui s'oppose à Dieu. Bon, on va dire que c'est erreur, faux état d'esprit, ne pas participer, manquer la cible, erreur, etc. Mais je vais dire autrement, c'est dans sa racine s'opposer à Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu veut dans Deutéronome que nous avons lu tout à l'heure? Qu'est-ce qu'il veut de nous? Il ne ment pas, il n'y a pas que la vie. Il y a la vie et la mort, il y a la bénédiction et la malédiction, mais choisis la vie, c'est tout son cœur. Ça, c'est l'amour. Bon, donc aucun père ne voudrait voir son enfant périr et mourir. Donc il dit choisis la vie. Donc nous sommes en train de réfléchir un véritable salut pour savoir si je suis vraiment sauvé. Il faut savoir d'où je suis sauvé. Et je suis sauvé des péchés. Ça, c'est la vérité. Et maintenant, parce que notre verset de Philippiens 2:12 nous parle de travailler à notre salut, donc on est en train de traiter notre salut, on va voir ce qu'est vraiment le salut que nous avons reçu de Dieu. Donc, Un véritable salut, c'est être sauvé des péchés. Vous êtes d'accord maintenant? C'est la Bible qui le dit. Et sozo, ça c'est salut en grec, c'est exprimé plein de fois dans la Bible, mais c'est exprimé en trois temps, donc en trois modes de temps différents. Donc c'est dans le passé, dans le présent et dans l'avenir. Donc vous savez très bien que il y a beaucoup d'expressions du salut qui est exprimé dans le passé. Je vais citer juste un verset, 2 Timothée 1:9. Il nous a sauvés, il nous a déjà sauvés, d'accord? Il nous a sauvés et nous a adressé un saint appel. Et il ne l'a pas fait à cause de nos œuvres. Nous avons une réponse ici. Tout à l'heure, on s'est demandé, est-ce qu'il faut ajouter des œuvres au salut? Mais il l'a déjà fait, il nous a déjà sauvés, pas à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre plan et de sa grâce qui nous a été accordée en Jésus-Christ de toute éternité. Donc, vous voyez bien qu'il y a des expressions du salut qui nous dit que ça a été fait. C'est dans le passé qu'il nous a accordé. Et dans le présent, c'est déjà notre verset d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Philippiens 2:12, travaillez à notre salut. Comme si, en ce moment même, dans le présent même, le salut continue de s'accomplir, n'est-ce pas? Et aussi, 1 Pierre 3:21, il y a, cette eau était une figure du baptême. Donc, on parle de l'eau qu'ils ont traversée pour entrer dans le pays de Canaan. Qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Et qui, manifestant, à qui maintenant, vous sauve. Voilà. Cette eau vous sauve. Ça, c'est au présent. Vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Et aussi, dans le futur, c'est employé. Vous savez très bien que vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ah, on n'a pas été déjà sauvé, mais il faut encore persévérer. Bah tiens, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera. Alors Paul, c'est Paul. Pour me faire entrer dans son royaume céleste. Donc, on sait maintenant que le salut, c'est quelque chose que Dieu donne en nous sauvant des péchés, mais ce salut est exprimé en trois temps. Donc, comme nous avons dit que le salut, c'est de nos péchés, c'est être sauvé des péchés, on va aussi regarder ce qu'est vraiment le péché. Donc, on va voir la nature du péché. Donc, j'ai cité juste trois, mais on pourrait trouver encore et encore. D'abord, sa nature, c'est que le péché existe. C'est omniprésent. Donc, il y a beaucoup de versets de la Bible qui peuvent témoigner. Le péché est entré dans le monde par le choix libre de l'homme, n'est-ce pas? Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. C'est Romains 5:12. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Je n'ai pas choisi, mais à cause de sa omniprésence, je dirais, à cause de son existence inévitable, on est né dedans. Les méchants sont pervertis dès le sein maternel, dès le sein maternel. Les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère. Oh ! Et non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Donc, ce péché, on ne peut pas dire que ça n'existe pas. Donc, je sais qu'en France, ce n'est pas la mode de parler du péché. Et que quand on évangélise, il faut surtout pas parler de péché. Il faut parler de l'amour, de la grâce, de Dieu qui pourvoit à tout, n'est-ce pas? Mais on ne parle pas du péché. Mais le péché, on ne peut pas éviter parce qu'il est là. Et deuxièmement, la nature du péché, c'est hyper puissant. Il rend celui qui pêche prisonnier du péché, fait souffrir et rend esclave du péché. Il ne peut plus sortir du péché. En vérité, je vous le dis, le réplique à Jésus, Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Ça veut dire qu'il a de la puissance. Donc ce n'est pas un pays moins puissant que la France qui viendrait dominer la France, n'est-ce pas? Il doit être plus puissant. Et car je ne sais pas ce que je fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Ça veut dire que je ne peux pas gagner sur le péché. Je ne peux pas remporter la victoire sur le péché parce que même si je le veux, ça ne marche pas. Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Donc le péché qui habite en moi a une telle puissance, il fait ce qu'il veut. Et encore une autre nature du péché, celui qui pêche doit impérativement payer le prix du péché et la mort. Donc vous connaissez tous ces versets. Car le salaire du péché c'est la mort, et vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Donc c'est la mort. La nature humaine tend vers la mort. Et ce n'est pas seulement sur la terre qu'on vit comme les morts, mais il y a encore la seconde mort, être jeté dans l'étang de feu. Ça, c'est le résultat du péché. Et donc, aujourd'hui, peut-être on n'a pas assez voulu regarder la gravité du péché, non? La dépravité du péché. Donc, c'est quelque chose de terrible. C'est quelque chose qui nous rend morts. Donc, il faut régler ce problème du péché. Sans ce problème de péché, nous ne pouvons pas vivre. Donc, il s'agit de notre vie aujourd'hui. Il s'agit de notre vie. Nous voulons être en vie. Et ce que Jésus a fait, c'est dans 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de vie. C'est un seul homme qui a tout réglé. Et il est venu pas pour nous bénir. Il est venu pour que nous ayons la vie. Pour que nous puissions avoir la vie, il fallait être sauvé du péché qui nous donne, qui nous rend prisonniers de la mort. Donc il a traité le péché. Comment? Parce que il est devenu lui-même le péché. Il est devenu pécheur que je suis. Il a mis le nom de Géranco sur la croix. Et c'est ma place, c'est moi qui devais mourir pour toujours, éternellement, mais c'est lui qui est mort à ma place. Donc l'avènement de Jésus-Christ est la victoire sur les péchés pour nous. Parce que lui, il n'avait même pas besoin de remporter la victoire sur les péchés pour lui-même, parce qu'il n'avait aucun péché, il n'avait aucun problème. Mais il est venu parmi nous pour nous libérer des péchés et nous donner une nouvelle vie. Donc on va parler de cette nouvelle vie. On va parler de ce salut qui nous est devenu possible par la croix sur laquelle Jésus a pris ma place. Donc on va parler de ce salut toujours en 3 temps, d'accord ? Avant de parler de ce salut en 3 temps, il faut savoir que voilà, c'est ce que Dieu a fait, hein? C'est ce que Jésus a fait. On ne peut pas l'annuler. Même si je n'arrive pas à le croire, même s'il y a beaucoup qui n'y croient pas, on ne peut pas annuler. Ce qui est fait. Donc ça, c'est un fait. Mais pourquoi moi, qui suis sauvée en Jésus-Christ, je n'arrive pas à croire que je ne peux pas vivre sans péché? Est-ce que vous croyez que vous pouvez vivre sans péché? Oui, c'est ça. Mais après la croix de Jésus, s'il nous a sauvés des péchés et qu'on continue de vivre dans les péchés, est-ce qu'il nous a vraiment sauvés? Hein? Ça, c'est une question qu'on doit poser. Donc, je vais vous dire tout de suite qu'il y a un conflit en nous, n'est-ce pas? Il y a un conflit en nous, il y a une guerre. Pourquoi? Parce que ce que Dieu a fait, on ne peut pas annuler. Mais ce que nous sommes, c'est la vie charnelle, livrée à la mort. Donc, il y a ce que l'Esprit de Dieu a fait Et il y a ce que le corps de Dieu a fait, mais nous, nous avons vécu dans la nature de pécheurs dans notre chair. Donc Romains 8 dit, la nature humaine tend vers la mort. Même si il veut, même si notre Père veut que j'ai la vie, Jérôme, elle tend toujours vers la mort. Ça, c'est la Bible qui dit. Tandis que l'esprit tend vers la vie et la paix. Et la nature humaine tend à la révolte contre Dieu. Donc, il y a quelque chose en nous, la vieille nature, on appelle, n'est-ce pas? La vieille nature qui nous tend à la révolte contre Dieu. La révolte contre Dieu, comment ça s'appelle? Ça s'appelle le péché. Et si Christ est en vous le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Donc si Christ est en moi, le corps qui tend toujours à la mort, vers la mort, il est mort. Il est mort. Alors, maintenant, tu peux dire, s'il est mort, il peut pécher?
Non.
C'est ça. Ça, c'est la vérité. Quel que soit notre sentiment et notre croyance envers le péché, ça c'est la vérité. Donc la vérité, il vaut mieux que nous nous perdions dans le combat. Si on lutte avec la vérité, il vaut mieux que ce soit la vérité qui gagne en moi. Oui, pas mon sentiment. Mon sentiment d'incapacité, mon sentiment d'impuissance. Oui, au lieu de faire gagner ce sentiment, il vaut mieux que ce soit la vérité qui gagne. En tout cas, cette guerre continuera jusqu'au retour de Jésus, qui détruira pour toujours le péché et la mort. D'accord? Le dernier ennemi qui sera détruit dans 1 Corinthiens 15, c'est la mort. Donc maintenant, comme il s'agit de notre salut, on va regarder de nouveau ces trois temps de notre salut qui est exprimé dans la Bible. Donc salut, sozo. On a dit que ça a été exprimé, il nous a déjà sauvés. Donc c'est le passé, ça s'appelle la justification et l'adoption. Bon, ce sont des mots théologiques, mais si on regarde vraiment de plus près, oh, on sera rempli de la joie. Et dans le présent, ça s'appelle la sanctification. Et dans le futur, ce sera la glorification. Mais ce salut, on va dire que en quatre dimensions, ça agit en nous. Ça agit en nous. Donc, nous allons regarder le passé. Justification. Je vais vous lire. L'acte de Dieu qui déclare que nous sommes justes devant lui et dans lequel il considère nos péchés comme pardonnés. C'est une bonne nouvelle ou pas? Oui. Et la justice de Christ comme la nôtre. Il considère la justice du Christ comme la justice de Jérôme. C'est vous. Donc, il ne peut pas nous voir autrement à travers la justice de Jésus. C'est une bonne nouvelle? Et est-ce qu'on doit attendre ça? C'est déjà fait. Alléluia. La justification est un événement. C'est légal. Il se passe le moment où une personne met sa confiance en Christ pour le salut. Qui est-ce qui a mis sa confiance en Christ pour le salut? Au sujet du salut. Je ne peux pas me sauver moi-même, mais c'est le Christ seul qui peut me sauver et que vous avez mis votre foi en lui. C'est à ce moment-là que ça s'est passé, mais sur la terre, rien ne s'est passé, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que c'est dans la loi spirituelle que ça s'est passé. Donc si on ouvre nos yeux du cœur, nos yeux spirituels, on aurait pu le voir. Il y a des juristes, n'est-ce pas, qui connaissent la loi, tous les articles selon le domaine. Et nous ne connaissons pas, n'est-ce pas, la loi civique, la loi pénale, on ne connaît pas tout, mais ça existe bel et bien. Donc, peu importe que tu connaisses cet article de la loi ou pas, mais ça s'est déjà fait. Donc, même si je ne connais pas toute la loi pénale de la France, ça existe. Donc, c'est déjà fait. C'est validé. Et qu'est-ce que ça implique? Ça implique une nouvelle position juridique avec Dieu. Tout ça, ça se passe dans la loi. Donc si on ne connaît pas la loi spirituelle, on a du mal à croire. Mais plus qu'on connaît la loi spirituelle, plus on est convaincu et persuadé qu'on est habité par la loi. Et Dieu communie avec nous maintenant comme si vous aviez jamais péché. Et vous aviez toujours obéi. C'est comme ça qu'il communie avec nous. Alors que nous communions comment ? Nous communions comment ? Nous communions comme si on était toujours pécheurs, sans être pardonnés. Nous communions toujours avec Dieu, comme si nous avons été toujours des rebelles. Notre cœur avec de nouveaux désirs et les motifs. Donc c'est ça. Donc c'est ça le problème. Donc regardez votre cœur. Avant, vous n'aviez pas envie de faire du bien. Vous n'aviez pas envie de prier pour quelqu'un. Vous n'aviez pas envie de pleurer pour quelqu'un. Mais maintenant, vous avez. Et pourquoi, vous savez? C'est parce que vous avez été sauvés. Parce que Jésus est entré dans votre cœur. C'est son esprit qui fait ça. Donc, c'est par là que vous pouvez vérifier votre salut. Assurance. Votre position dans Christ n'est pas basée sur votre performance, mais sur sa performance. Donc, ça ne peut pas être perdu. C'est une bonne nouvelle. Cette position spirituelle, hein, parce qu'on ne peut pas voir avec nos yeux de visage, mais c'est fait, on ne peut pas perdre. Et justification, il y a beaucoup de versets qui sont racontés dans la Bible, mais je vais lire juste un. Tite 3. Lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été révélés, il nous a sauvés. Il nous a sauvés. C'est dans le passé. Et dans le passé, il y a aussi l'adoption qui s'est passée. L'acte de Dieu par lequel il nous rend membres de sa famille avec lui, comme notre Père. En tant que membres de la famille de Dieu, nous pouvons jouir de sa présence et agir dans ses privilèges. Ça veut dire que j'ai le privilège d'être enfant de Dieu, enfant du roi. Donc j'ai le privilège et c'est avec ces privilèges que je vis. Tandis que la justification est légale, donc si on n'a pas les yeux dans la loi, on ne peut pas le ressentir, l'adoption est relationnelle. Donc vous pouvez expérimenter ça dans la relation. Cela se produit également lorsque une personne met sa confiance en Christ. Qui est-ce qui a mis sa confiance en Christ ? Oui. Donc cette relation, je suis sûre que tout le monde connaît. Donc on a expérimenté. Donc soyez assurés de ce salut que vous avez reçu. Pourquoi vous avez cette relation avec Dieu ? C'est parce que vous avez été affranchis, libérés et vous avez été changer dans la carte d'identité. L'identité, vous êtes un enfant de Dieu. Intimité, comme un enfant, vous expérimentez l'intimité avec Dieu comme votre père. Ça, peut-être, ce n'est pas tout le monde, mais c'est à vivre. Plus que vous vivez, plus vous êtes assuré de votre salut. Et vous êtes co-héritier avec le Christ, ce qui est la sienne et la vôtre. Qu'est-ce qui est à lui? C'est toute la création, non? Toute la création a été mise sous ses pieds. Et ça, c'est à moi. Donc, un jour, ma mère était en train de ramasser les cailloux à la plage de Nice. Et que moi, je la regardais. Et que je pensais un peu à sa valise qui serait alourdie. Et quand elle était en train de ramasser ses galettes, oui, assez jolies, j'ai dit à ma mère, « Maman, regarde. » Tout ces galets-là, c'est à moi. Donc je ne ramasse pas. Je les laisse à leur place. Et après, elle a tout jeté. De la même manière, l'argent, n'est-ce pas? L'honneur, le pouvoir, tout ce qui est à Jésus, je peux me jouir de ça si je suis en lui. Donc je n'ai pas à chercher à l'avoir parce que c'est déjà là, n'est-ce pas? Adoption, il y a beaucoup de versets, mais il nous a donné le droit de devenir des enfants de Dieu. Et maintenant, je vais sauter sur le futur. Parce que aujourd'hui, notre verset nous parle du présent, on va le traiter à la fin. Donc, je vais sauter sur le futur. Dans le futur, qu'est-ce qui est prévu pour nous? C'est la glorification. Donc, la définition. Le travail futur est final. Le travail final de Dieu sur ses enfants, où il transforme notre corps physique mortel dans le corps physique renouvelé, éternel, dans lequel nous demeurerons pour toujours. Donc vous n'allez plus pécher dans le royaume de Dieu à venir. perspective. Le meilleur est toujours encore à venir. Mais ça, c'est à nous. Et la perte pour le Christ est toujours un gain pour nous. Donc, ça ne fait rien de perdre un peu, pour le moment. Parce que tout est à moi. Dieu réparera chaque tort. Ça, c'est le travail final de Dieu. Donc, on va lire un verset. Il transformera notre corps de manière... notre corps de misère, je le suis, hein, j'ai 52 ans, en pleine crise de ménopause, et je pense à la glorification. Sans cela, je ne peux pas vivre une minute de ma vie, une heure de ma vie. Notre corps de misère sera transformé, et notre corps sera rendu conforme à son corps glorieux. Et son corps glorieux, juste un exemple, les disciples ont fermé toutes les portes, et son corps ressuscité, il est entré. Alors, je ne sais pas comment je vais voyager pendant l'éternité. En tout cas, c'est très difficile d'imaginer, mais nous serons dans la glorification. Donc, ça, c'est le futur. Il va le faire. Vous savez, justification, adoption, glorification, il y a le point commun, c'est que tout a été fait par lui. On ne pouvait rien contribuer. On ne pouvait rien faire. Pas ajouter... un virgule. Mais la sanctification, c'est le présent, maintenant. C'est ce que nous sommes. C'est pour cela que vous avez des sentiments bizarres. Parce que le travail progressif de Dieu est l'homme. Parce que la sanctification, c'est notre adresse actuelle, ce que j'ai mis dans le titre. Et où est-ce qu'on en est? Nous en sommes là, dans le processus de sanctification. C'est pour cela que vous n'êtes pas parfait, moi non plus. Et c'est pour cela que vous avez l'impression que le péché n'a pas été vaincu. Mais si, ça a été vaincu. Mais c'est souvent le mensonge qui me rattrape. Parce qu'on est en voie de sanctification vers la vérité pour saisir pleinement la vérité. Donc le travail progressif pour la première fois de Dieu et de l'homme. Pour la première fois. Qui nous rend plus en plus libres du péché. Vous avez vu? De plus en plus libre du péché. Et Robert nous dit souvent que il m'arrive de passer même des jours entiers et une semaine entière sans péché, même dans la pensée. Et je suis 100% d'accord. Même si j'ai un sale caractère, tout ce qui s'oppose à Dieu, des fois je m'étonne et je rends gloire à Dieu. Je sais que ce n'est pas moi, hein. Mais dans ce processus de sanctification, moi, je sais très bien reconnaître le travail du Saint-Esprit parce que je me connais. Et Gérard naturel ne peut pas vivre comme ça. Gérard naturel ne peut pas avoir ses pensées, ses désirs de Jésus. Mais quand je suis habitée pleinement dedans, et je dis que c'est vraiment lui qui fait. Donc, c'est pour nous mieux connaître. Ça nous rend de plus en plus libres du péché et ça nous rend ressemblant de plus en plus à Christ dans nos vies réelles. Dans nos vies réelles, pas spirituelles. Une autre façon de dire la sanctification est de devenir pratiquement ce que vous êtes déjà en Christ du point de vue de votre position. Vous êtes déjà les enfants du roi. Vous êtes déjà co-héritier avec Jésus. Mais ça, c'est dans la loi spirituelle. Donc, comme vous n'êtes pas allé ouvrir le livre de la loi spirituelle, il y a des moments où vous arrivez à y croire, il y a des moments où vous n'arrivez pas à y croire. Mais imaginez que vous le devenez vous-même. Vous le devenez. Et que ça devient tellement visible, vous allez y croire. Hein? C'est l'exécution de la nouvelle vie en Christ. Ça, cela implique un travail progressif, graduel et spirituel des deux mises en place. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place? La mort au péché qui demeure. Il y a encore des péchés qui demeurent, vous pouvez les reconnaître. Il y a la mort au péché et la ressemblance à Christ. Ce sont des choses qui se font. C'est pour cela qu'on peut vivre en communauté. Pourquoi? Au lieu de juger la personne, oh, pourquoi elle est comme ça, pourquoi elle est comme ça, je me dis toujours que ça c'est en processus. Ça fait 3 ans, 4 ans, 5 ans qu'ils ont connu la vérité, pas l'Église, mais la vérité. Mais ils sont en processus. C'est pour cela qu'il faut donner le temps au Seigneur et aussi à la personne. Et si ça, je l'applique à moi, je me protège de tout découragement. Quand, après avoir bien marché pendant des jours, si tu tombes, tu te dis que je suis en voie. Je suis en voie de sanctification. Donc, si Dieu accepte ce temps, je dois accepter parce que je suis plus petit que Dieu. Tandis que la justification et l'adoption sont en événement, c'est déjà fait, la sanctification est en processus. Tandis que la justification et l'adoption sont seulement le travail de Dieu, où nous n'y contribuons rien, la sanctification et le travail de Dieu est de nous-mêmes à la fois. Waouh! C'est cette vie-là que le Seigneur nous a donné à vivre. Ça ne vous plaît pas? Moi, ça me plaît beaucoup. Même si c'est pas facile de vivre chaque jour dans le combat, il a choisi un temps sur la terre pour moi. Et je me dis, mais pourquoi tu ne m'as pas pris tout de suite après m'avoir baptisé dans le Saint-Esprit? Ça aurait été bien. Non, ça ne m'aurait pas fait vivre cette expérimentation avec Dieu de progresser et de se préparer comme épouse du Seigneur. Donc, sanctification, c'est inévitable. Si Jésus est entré en toi, tu ne peux pas l'éviter. Ça se fait. C'est tellement puissant, ça se fait. Et vous êtes d'accord, non? Le changement se produira dans ta vie. Tu le veilles ou non, si tu es en Jésus, si Jésus est en toi, ce changement se fait. Donc, si le Jésus n'est pas en toi, si ça ne se produit pas, là, il faut poser la question. Interne, le changement se produit intérieurement d'abord, puis ça s'extériorise lui-même, tout seul. Changement progressif, ce n'est pas le contraire. Ce n'est pas en faisant quelque chose que ça m'apporte une transformation de mon cœur. Ce n'est pas ça. Changement progressif, donc c'est être plus comme le Christ. Et le changement ne se produit pas en une nuit. Donc il faut jamais m'exiger que je sois changée en un jour parce que j'ai cru en Jésus, parce que c'est un processus perpétuel jusqu'au retour de Jésus. Donc on revient sur notre verset. C'est pour cela que aujourd'hui nous sommes en processus de sanctification. Il faut travailler à notre salut qui sera parfait. Donc je vais lire conclusion 1 Jean 3. Donc ça c'est 3 versets qui parlent de ces 3 temps. Voyez, quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes, adoption. Si le monde ne vous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu lui. Donc ça, par quel amour Dieu nous a justifiés, Dieu nous a adoptés. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Pas encore, c'est le futur. Mais nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Ça, c'est la glorification. Et c'est toujours la sanctification qui vient à la fin. Parce que le passé, le futur, c'est déjà accompli dans le ciel. Et nous sommes au milieu. Toute personne qui possède cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Donc, si vous voulez voir, si quelqu'un a vraiment la vie, si quelqu'un est vraiment sauvé, c'est ça, l'indice. Si cette personne possède cette espérance en glorification en Jésus, il se purifie tout seul. Ce n'est pas parce qu'on l'oblige de faire quelque chose, mais c'est cette envie-là qui travaille en lui. Donc, je vais vous dire que pourquoi notre vie est fatigante. Parce qu'il y a le combat, comme nous avons dit. Même si tout ce qui a été fait, on ne peut pas annuler, c'est vraiment extraordinaire. Je ne sais pas dans quelle marmite je suis tombée. Cette grâce est extraordinaire. Mais aujourd'hui, pendant le processus de la sanctification, il y a le combat. C'est pour cela que qui suis-je? Je suis un combattant. Qui suis-je? Je suis un militaire. Donc, pourquoi? Parce que il y a en moi ce corps que vous voyez et il y a l'âme et l'esprit. Donc quand Jésus, quand vous avez accepté Jésus comme votre sauveur et comme votre Seigneur, Christ l'Esprit du Christ est venu en moi, habiter. Il n'a pas choisi le palais royal ou le présidentiel, il a choisi la poubelle que je suis. Et quand il est venu habiter en moi, tous les déchets et toute la pourriture et corruption, ça ne pouvait plus tenir. Donc ça a commencé à partir. Parce que la ténèbre ne peut pas regarder la lumière, donc tout la puissance de ténèbres qui était en moi, ça a commencé à se dégager. Et je deviens de plus en plus la lumière. Mais quand même, nous avons dit que notre nature charnelle, ça a une tendance d'aller toujours vers la mort, vers l'opposition de Dieu. C'est pour cela que, on va voir quelques dessins que vous connaissez maintenant, je pense. Vous avez vu ce genre de représentation. Il y a, si c'est moi, il y a au centre de moi-même, il y a esprit. Et dans cet esprit, il y a Jésus qui vit. Et après, il y a mon âme. Ça, c'est mon caractère. Il y a tout ce que je ressens comme la volonté, intelligence, émotion, etc. Et le corps, il y a 5 sens qui captent tout ce qui est de l'extérieur. Donc tout ce qui est à l'extérieur, ça peut m'influencer et ça peut me souiller. Et encore, si on va... Donc ça, c'est une autre présentation. C'est dans l'esprit. C'est là Dieu est venu habiter. Vous ne pouvez pas le prendre en photo. Donc il n'y a pas de preuve. C'est la vérité qui nous dit. Donc si vous connaissez la vérité, c'est cette vérité-là qui va vous rendre libre. Donc comme Dieu est venu habiter en moi, Dieu est esprit. Donc il me voit pas seulement le corps, il me voit en esprit, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'il voit en moi? Il voit l'esprit de Jésus. Donc pour lui, je suis Jésus. La même valeur que Jésus. Donc c'est pour cela qu'il ne me condamne pas. C'est pour cela qu'il se réjouit de moi. C'est pour cela qu'il voit toute la glorification qu'il y a. Bon, pour nous c'est le futur, mais pour lui c'est déjà fait. Donc il y a ça. Et regardez, Sankaman, Apro. Voilà. Ah, Kiandangi Baba. Pas encore. Il y a le corps à droite. Corps doit être soumis à l'âme. Et l'âme doit être soumise à l'esprit. Et l'esprit de l'homme, parce que ce n'est plus l'esprit du malin de ce monde, comme c'est l'esprit du Christ, cet esprit communie avec l'esprit de Dieu. Donc c'est dans mon esprit que je dois louer, c'est dans mon esprit que je dois prier, c'est dans mon esprit que je dois accepter la vérité. Mais là, peut-être ça ne se voit pas bien, mais dans l'âme, c'est toute la guerre qui est décrite. Le vieil homme, le nouvel homme. Donc dans le nouvel homme, il y a l'amour, la sanctification, la foi, la douceur, etc. Mais dans le vieil homme, il y a... Bon, ce sont des, on va dire que ce sont des déchets qui devaient déménager, mais ça a laissé la trace. C'est quoi? L'orgueil, le mensonge, l'adultère, l'impureté, la fornication, l'impudicité, l'idolâtrie, les sectes, la sorcellerie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les meurtres, les envies, l'ivrognerie, les excès de la table, etc. Tout ça, il y a la trace. C'est pour cela qu'il y a le combat dedans. Donc c'est pour cela que notre vie est fatigante. Mais qu'est-ce que vous allez choisir? Est-ce que vous allez choisir le combat ou vous allez vivre comme si vous n'avez pas été sauvé? C'est ça la question. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui Paul nous dit « Travaillez ». Ça veut dire qu'il faut de l'énergie pour le combat. Ce n'est pas en restant comme ça. Pourquoi je ne change pas? C'est parce que tu ne lis jamais la Bible. Et la Bible, ce n'est pas un livre qui se lit. La Bible, c'est la nourriture spirituelle. Il faut mâcher, il faut digérer. Il faut que ça aille partout dans ton âme. Oui. C'est pour cela peut-être. Donc il y a peut-être quelque chose qu'il faut changer et c'est possible aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc de nouveau, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Mais nous savons où travailler, comment travailler. Donc il y a la notion d'obéissance. Vous avez toujours obéi et même maintenant, encore plus maintenant. Ça veut dire que maintenant, ça veut dire que 12h24, 25, il faut obéir. À 12h30, il faut obéir. Mais à quoi vous allez obéir? à quoi? S'il n'y a pas de l'objet de, à qui on doit obéir, c'est foutu, c'est fini. C'est ça. Il faut obéir à sa parole, à sa loi de la vie. C'est pour cela qu'on lit la Bible. C'est pour cela qu'on médite la Bible. C'est pour ma vie. Et si ma vie est pleine en moi, tout le travail du royaume de Dieu se fait naturellement. Parce que quand ça déborde, ça va plus loin. Donc, il y aura toujours des gens qui sont touchés par le courant de la vie. Parce que le courant de la vie qui coule comme un fleuve dans ce monde, ça ne coule uniquement par les hommes et les femmes, vous savez. Et que moi, j'ai été touchée par ce courant de la vie et je suis sauvée. Et je suis en voie de sanctification et je serai glorifiée. Mais pendant mon voyage sur la terre, il me faut ce combat. Et par ce combat, non seulement je vais me réjouir pleinement de ce que j'ai reçu comme salut, et ce salut sera quoi? La puissance du salut sera même au-delà de se faire de ma petite vie, ça va aller toucher les autres. Amen. Donc ça c'est une vie extraordinaire quand même. Puis c'est en Jésus. On va prier. Merci, merci Seigneur de nous apprendre ce que je suis en toi. Oui Seigneur, j'ai été justifiée et j'ai été adoptée dans ta famille royale. Et je serai glorifiée Seigneur lors de ton retour. Mais Seigneur, aujourd'hui, je collabore avec toi. Je suis avec toi dans la relation intime et que cette relation me transforme Seigneur. Et je prie vraiment Seigneur, pour que tu bénisses la France, que dans toute l'église de la France, qu'il y ait des gens qui combattent dans ce voyage de sanctification et qui se réjouissent avec toi, Seigneur, de chaque chose qui change, Seigneur, dans notre intérieur et qui deviendra visible, Seigneur, vers le monde. Seigneur, bénis-nous en tant que corps du Christ. Et que tu nous as dit d'obéir et nous obéissons à ta parole qui nous dit d'aimer toi de toute la force et d'aimer les frères et sœurs. Ça veut dire qu'on ne peut pas obéir à la moitié. Seigneur, il y a longtemps, je voulais seulement m'isoler avec toi seul, mais c'était complètement faux, Seigneur. C'est parce que je ne te connaissais pas. Et tu m'as appelé à t'aimer et aussi à aimer les frères et sœurs. Et c'est dans cette transformation, la vie se multiplie. Merci Seigneur pour cette vie de sanctification. Et nous savons très bien que sans toi, on n'y arrive pas. On ne peut rien faire. Donc viens nous remplir par ton esprit, jour et jour. Et que chaque minute, pas chaque jour Seigneur, chaque heure, chaque minute, que nous puissions choisir la vie, que nous puissions choisir l'amour que tu es. Au nom de Jésus. Amen. Désolé pour le retard. Mais il faut pas me donner le micro et après vous allez manger tard.